partage.
Addictive Radio.
Voltage, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. Comme celle-ci.
Ça s'est passé dans le warm-up sur Voltage. Voltage, le warm-up avec Robin.
Sur Voltage pour terminer la semaine juste avant le week-end. Et en plus, eh bien, c'est le dernier warm-up de la saison. Et on a un invité exceptionnel, ça me fait vraiment trop plaisir de te recevoir. Bob Sinclair est avec
Merci
moi.
Merci Robin, bonjour à tous.
Bienvenue sur Voltage, on a une tradition pour commencer ce warm-up, pour commencer cette interview. On commence avec un mash-up. Et Bob Sinclair, bon, vous le connaissez, mais c'est l'occasion de se remémorer tous ces tubes.
Pardon, le loyer.
Ouais, chaque mois.
Pardon, le prix du loyer, voilà le prix. Ah, je n'ai pas dit le prix du loyer. Mais où ai-je la tête alors? Bon, alors le prix du loyer, si je ne m'amuse, il est de 8654 francs. Et il faut rajouter bien sûr les charges comprises. Hein? Le chauffage. Alors le chauffage, c'est un chauffage qui est collectif, mais individuel, au gaz, donc électrique. Bon, suivez-moi, je vais vous donner tout le dossier de manière à me le renvoyer avec toutes les pièces. Vous avez toute la liste des pièces requises ici. Vous avez donc vos 30 dernières fiches de paye. Ici, ça c'est pour monsieur seulement votre, l'attestation de votre employeur, attestant de votre emploi. Hein? Vous êtes patron. Alors, si vous êtes patron de là où vous travaillez, vous allez m'envoyer une attestation de tous les employés. Attestant que c'est vous le patron. Voilà, ensuite 4 photos d'identité format A4. Non, noir et blanc, oui. Et 2 en noir, 2 en blanc. Voilà. Ensuite, un RIB pour garder le contact. Et bien sûr, votre avis sur l'imposition. Qu'est-ce que vous pensez des impôts? Et là, ils disent, madame, si vous avez un avis différent de votre mari, il faut le mettre. Vous m'envoyez tout ça donc chez Immo Contact 2000, l'immobilier de l'an 2000, à l'attention de moi-même, c'est-à-dire Abdelrazzaq El-Merhaoui. Avec un petit coup de stabilobos phosphorescent sur mon nom, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. J'adore cette expression, ça mange pas de pain. Comme si stabilobos, il va manger du pain. Bon, ça m'a fait plaisir, monsieur veut agréger les sentiments. En attendant de vous lire, acquis de droit, les plus sincères, et même joyeux anniversaire, gars, si tu veux. Madame, vous êtes bien agréable de votre visage, ainsi que toutes les composantes de votre personnalité. Ça m'a fait... Ah non, attendez deux secondes. Ah mais où ai-je la tête? J'ai oublié le principe. Mais alors, Abdelzak, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai une question personnelle à vous poser, car vous allez m'envoyer le dossier, j'espère qu'il va être complet, je pense qu'il va être complet, mais vous savez, par les temps qui courent, malheureusement, on envoie un dossier complet et il y a quand même des blocages. J'espère pour vous que vous êtes français.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Une nouvelle star du rire.
Uniquement sur Rire et Chanson.
Iliès Jadel.
Bon, à la base, mes parents, ils avaient tout misé dans mes études. Moi, ils m'avaient inscrit dans un lycée catholique, mes parents, moi. Ouais, il y a eu la même réaction que vous le premier jour quand je suis arrivé. Ah, ils étaient tous dans une grande chapelle, comme ça, je me rappellerai toute ma vie. Il y a une dame, elle faisait la prière. Elle m'a vu, elle a fait « Oh, Seigneur, mais un sarrasin !» Je m'attendais pas à ça. Moi, je me suis dit, c'est sûr, ils vont me rejeter. Pas du tout. La dame, j'arrive, je dis « Bonjour, madame, excusez-moi, je suis un peu en retard. » Elle me dit « Ah non, 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 tu m'appelles pas madame, tu m'appelles ma sœur. » Moi, je l'avais jamais vue avant. Je lui dis « Écoute, ma sœur, là, t'abuses, là. Comme t'es un peu plus vieille que ma mère, ça te dérange pas, je vais t'appeler ma tante, moi. » Je lui dis « Elle me dit « Ah non, ça, c'est péché. Tu vas te confesser, là-bas. » Moi, je regarde là-bas, je vois une armoire. Et là, elle me dit « Tu vas dans l'armoire ? » Dans l'armoire, il y a un mec. C'est ton père, mon père, c'est notre père à tous. Moi, je me suis dit, elle est défoncée, elle. Je lui dis, son père à toi. Moi, mon père, je le connais, il rentre pas dans l'armoire, c'est pas possible. Mais je vous jure, j'étais dans l'armoire. Dans l'armoire, il y avait un mec. Moi, j'arrive, je rentre dans l'ambiance, je lui dis, bonjour, papa. Il me dit, alors toi, demain matin, rendez-vous à 9h, cours de catéchisme avec ta sœur, allez hop. Mais moi, je savais pas c'était quoi le catéchisme. Le soir, je rentre chez moi, je me dis, je crois le catéchisme, ça doit être un sport de combat catholique. Le lendemain, j'arrive au catéchisme, je vois, je suis tout seul en kimono. Là, il y a la sœur, elle vient, elle se met en face de moi, elle fait comme ça. Moi, je prends de l'élan. Mais là, je lui dis, écoute-moi bien, il n'y a plus de frères et sœurs, là. On est sur le tatami, je vais te monter en l'air, j'en ai rien à foutre. Elle m'a dit, vas-y, dégage dans l'armoire tout de suite. J'ai passé ma scolarité dans un meuble, mais faut le savoir. Toute la journée, j'allais dans l'armoire, mon père était là toute la journée. Un jour, je lui dis, ça y est, toi, sors. Elle t'abuse, t'es dans une armoire toute la journée. Quand les gens, ils me disent, ton père, il fait quoi dans la vie, je leur dis quoi, moi? Mon père, c'est un cintre, arrête tes conneries, sors de là. Elle me dit, écoute, faudrait que tu penses à faire ton baptême, là. Je dis, alors là, non. Non, parce que moi, j'avais un autre père à la base. Et il m'avait déjà coupé un bout. Je dis, alors là, toi, si tu recoupes un bout, là, il n'y a plus rien. Là. C'était trop bien, le lycée catholique, je te jure. Une fois, on est parti à Lourdes. Lourdes, c'est un endroit où les catholiques, ils vont pour voir des miracles. Moi, je savais pas. Moi, j'ai demandé à ma prof, je dis, c'est où Lourdes ?
Je m'en fous. Ah. Tu vas te retrouver au village de Si je savais.
Si je savais.
black and bourgeois. Yo, keep all, let me hold the keys to the car. I'm in front of the club trying to bag a chip. Trying to get five of them cause the whip C6. Feeling aight, chrome looking real tight. Watch the moonlight bounce off the pearl white. Word money, I earn money just to burn money. I'm trying to get this Federal Reserve money. Just too tight to artists, experts and novice. Experts always hit the mark with their targets.
You got it.
Foundation ever established. Me and my team bubble like Alka-Seltzer tablets. Nigga, don't sleep when it's time to creep. A little pimp like me, a crawl underneath. It takes a lot more than words and movement. I don't give a P-H-U-K what you say. Acting all wild, unprofessional. Who got beef and knock the teeth out your smile? My lyrical lubricant keeps the crowd moving. You get booed, the stage show needs improvement. So if you wanna see A plus the artist, you got a Western Union man, 3 grand deposit. Way I cast out there, steady kicking guard. Girls steady saying, look, I can see that the guard is. You can't harm me or stop me. Nah. Even on a poor quality bootleg set cop.
You know you got it.
Make up your mind, the dime pieces, love the diamonds and the shines. Real plans never fall in love. Still in my heart is like still in the car with a club. Nevertheless, I get an occasional crush. Say some romantic stuff to make you wanna blush. Girls in all flavors, no matter what they raise. Rhymes amazing, making Craig Mac faces. Take them back to the lab and touch three bases. Take my time, don't wanna catch no rape cases. Kiss on the forehead and say goodnight. A plus y'all, and I'm out like three strikes.
You got it.
Come on.
The more I look, the more I find the reasons why.
mais il y a aussi une lettre de rupture, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie. Tout ça, en fait, on passe par tous les stades et j'essayais de les mettre dans l'ordre de la rencontre amoureuse, qui est une sorte de miracle, jusqu'à la tristesse et le désespoir
et la rupture.
D'être quitté, oui.
Alors cette rencontre au théâtre, elle fait suite aussi à une rencontre littéraire, la sortie de ton dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, véritable tour de force, parce que tu n'y regroupes que des auteurs vivants, hein, c'est important. Oui. Le monde est tellement pessimiste qu'on a totalement oublié la force des auteurs français. Oui. C'est le cri du cœur que tu voulais finalement quelque part pousser avec cette pièce.
Mais une chose par exemple qu'on oublie, parce qu'on aime bien faire notre autocritique, nous les Français, c'est que nous sommes le pays qui a eu le plus de prix Nobel de littérature dans l'histoire.
Exactement.
On en a 16, les deuxièmes sont les Américains avec 13.
Vos ventes dégringolent de cigarettes.
Oui, vous, à chaque augmentation, nos ventes dégringolent automatiquement.
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
À chaque augmentation. Oui. Voilà, nos ventes dégringolent. C'est simple, c'est pas compliqué. Mais il n'y a que le ministère de la Santé qui ne veut pas nous écouter. C'est ça le problème.
Oui.
Malgré qu'ils aient tous les chiffres.
Et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
Ah ben il faut écouter. Le problème c'est qu'on est entouré de pays européens qui vendent des cigarettes à moitié prix. Comment voulez-vous lutter ? Vous pouvez pas empêcher un client d'acheter un paquet à moitié prix. C'est impossible.
Bien sûr. Est-ce que vos clients vont vers les produits dérivés que désormais mettent sur le marché les grands fabricants de cigarettes ? Vous savez,
oui,
les vaporettes.
Ouais, ça représente très peu un chiffre, c'est très peu par rapport aux cigarettes.
On n'y est pas encore.
C'est très peu. Voilà, moi si vous voulez, j'ai une barre tabac, et toute la journée, dans les poubelles, vous avez des paquets coloris qui viennent d'Espagne.
Eh oui.
Avec les
sigles habituels, pas les paquets que nous vendons ici, qui sont désormais avec des messages assez anxiogènes. Ah bah, les gens achètent... Ouais. De l'autre côté de la frontière, oui.
Mais exactement. Il y a des clients qui se font livrer par Internet, vous vous rendez compte ?
Donc c'est une activité qui est en train de mourir.
Mais attendez, le réseau de vente légale est en train de mourir.
Oui, et on ne peut rien faire. Ah. Les pouvoirs publics ne peuvent rien faire contre ça.
Ah ben écoutez, ils veulent rien faire surtout. C'est ça qui est inquiétant.
Allez, merci Philippe pour ce témoignage. Vous entendez mieux là, tant mieux. Hein. Merci Philippe pour ce témoignage. Vous êtes buraliste, je le rappelle, en direct de Villemur-sur-Tarn. La vérité en face, 0826-300-300. Dans un instant, nous accueillons nos deux invités pour poursuivre notre réflexion au lendemain de ce drame épouvantable survenu en Haute-Marne. A tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai, à Paris et dans toute l'Île-de-France, 99.9.
Radio La Vérité en Face, Jean-François Aquili.
Quitter le monde réel, lever vos yeux au ciel, mettez-vous à genoux et trouvons le plus fou.
Jean-François Aquili.
Que faut-il faire, Mélanie, surveillante, tuée par un collégien hier, un collégien de 14 ans, à Nogent, près de Chaumont, en Haute-Marne, localité de 3500 habitants. Nous ne sommes pas dans les grands ensembles, nous ne sommes pas dans les zones, vous savez, qui échappent au contrôle de l'État. La réponse est-elle sécuritaire face à la multiplication, pardonnez-moi de le dire ainsi, des couteaux, cette montée de violence des jeunes? Que peuvent faire les enseignants et les personnels de l'éducation nationale face à ce phénomène de société qui va grandissant? Je reçois mes deux invités. Bonjour à vous, Eve Vagerland.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes enseignante, vous avez notamment écrit « Un prof ne devrait pas dire ça » aux éditions L'Artilleur. Et vous avez toute une réflexion, effectivement, sur ce qui se passe dans le milieu scolaire. Avec nous également, soyez le bienvenu, Gabriel Latondio. Bonjour,
bonjour
à vous.
Bonjour, bonjour.
Professeur agrégé à Paris 1 Sorbonne. Vous avez été, alors aidez-moi à le dire mieux que moi, un témoin de victimes de violences en milieu scolaire.
Oui, bah moi
Et vous avez enseigné au Lila. Hein,
oui, voilà, j'ai passé la moitié de ma carrière dans le secondaire, aujourd'hui l'autre moitié dans le supérieur. Et quand j'étais dans le secondaire, je servais un public lilasien. Et la communauté que j'étais observé, en fait, a été touché par trois morts d'enfants. Donc en 2018, 19, 21. Moi, j'ai alerté. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je porte ce message-là.
Alors, les enseignants, les personnels de l'éducation sont en première ligne face à cette violence des jeunes. Vous savez, on dit souvent, que fait l'école? Ah, qu'est-ce qu'ils font les profs?
Yeah. K-pop.
La nuit K-pop.
Sur Énergie.
Sur Énergie.
DJ입니다. 다음 곡은요, 요즘 테라에서 가장 핫한 아스테르메 외계인들이죠. 플레이브가 부릅니다. 펌펌더 볼륨!
Vous avez un exposé très nourri, très consistant, parce que Martin considérait que des élèves de première, de seconde et de terminale pouvaient comprendre ce qu'il disait. Il avait foi en ses élèves. Et d'ailleurs, ces topos, si j'ose dire, de très grande qualité, ont été à la fois compris par les lycéens et énormément appréciés. D'ailleurs, après ces interventions, Martin Morel restait avec nous, avec les lycéens, pour déjeuner en pique-nique. Et puis il a fait aussi alors un topo qui est un de ses sujets de prédilection, puisque un de ses ouvrages sort chez Perrin ces jours-ci, avec Sylvain Guggenheim sur les croisades, et il a fait un topo très, très fort sur l'Église et la violence, croisade et inquisition. Et il explique, alors, ça c'est sa méthode historique et son empathie. Il commence en disant, c'est des accusations compréhensibles. Oui, on reproche à juste titre à l'Église les croisades et l'inquisition, et il dit, ça heurte nos consciences. Et il dit qu'effectivement, pendant très longtemps, enfin, ici de Tertullien, Isidore de Séville, qu'il est contraire à la religion d'imposer, ou qu'on ne contraigne pas à la foi par la force. Et il dit, il faut donner à nos détracteurs à réfléchir, nous devons réfléchir à ce que disent nos détracteurs. Avoir toujours en tête cela dans les discussions avec nos détracteurs. C'est-à-dire, celui qui n'est pas d'accord avec moi...
C'est pas un ennemi.
C'est pas un, à la fois, c'est pas un ennemi. Son objection mérite d'être entendue et mérite d'être écoutée. On l'examine avec le maximum de bienveillance parce qu'elle comporte une part de vérité. Ce qui ne m'empêche pas ensuite de répondre, et son topo sur l'Église et la violence, croisade et inquisition, est absolument remarquable. Et encore une fois, ça s'adresse à des lycéens de seconde, de première et de terminale. Ce qui veut dire que le Martin Aurel universitaire brillantissime est aussi capable de s'adresser avec la même passion, avec la même rigueur, à des jeunes gens.
Et vous disiez, une méthode historique... Empathie, je suppose, travail sur les sources. Donc, Michel, je pense que là, vous pouvez rendre témoignage de son exigence de vérité à un niveau, alors qui n'est plus celui de la transmission auprès de tous les publics, mais qui est dans la construction du savoir. On l'a dit, il faisait partie de l'Opus Dei, il était effectivement profondément catholique, donc profondément amoureux de la vérité. Comment fonctionnait-il? Comment travaillait-il? Et comment vous a-t-il fait travailler?
Alors, ce sont deux choses différentes. Pour ce qui a trait à ses travaux, alors évidemment, sa thèse qui porte sur l'étude d'une famille de noblesse provençale au Moyen-Âge qui s'appelle les Porcelets, qui est dirigée à l'époque par un fils de ce qu'on appelle un fils du Bis, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été créé par cette. Dont la forma mentis avait été créée par la direction que Georges Duby avait donnée à l'histoire médiévale et que va récupérer Martin Aurel.
Alors, Georges Duby, c'est un des très grands historiens de l'école française. Enfin, pour nous, historiens, c'est une sorte de père fondateur.
Et qui a montré l'importance de faire des monographies régionales, et dans ces monographies régionales, de s'intéresser en particulier aux structures de parenté, pour essayer de comprendre comment un comté, une seigneurie se constituait et devenait un élément d'un ensemble plus large qui, à terme, va devenir un État, un empire, ou ce genre de choses.
Voilà. Est-ce que ça explique l'intérêt de Martin Aurel pour la famille Plantagenet? Parce que, en termes de parentèle, ça se pose là.
D'autant qu'il a même prolongé, parce qu'en fait, Martin Aurel, on le sent à travers ce qu'on dit, de bien des façons, est un passeur, en dirigeant la thèse de Clément de Vasselot, qui porte sur une autre famille, les Lusignans. Hein, et en fait, il trace un sillon à sa façon, hein, qui a été ouvert par Georges Duby, qui l'a élargi, et dans lequel la jeune génération, car c'est une thèse qui a été soutenue assez récemment, maintenant absolument brillante, remarquable, est une des dernières illustrations. Mais en même temps, il a le souci du public. Vous savez qu'il a fait des émissions avec Stéphane Bern, par exemple.
Ah oui.
Oui. Et qui sont très intéressantes à regarder, parce que là, ça dit encore quelque chose du personnage. Il n'a pas été très satisfait du caractère un peu primesautier de la première émission. Mais en même temps, il a trouvé le moyen de le faire comprendre à M. Bern, qui est un homme cultivé et intelligent et intéressant, qui, à partir de ce moment-là, a un petit peu changé la façon de faire, et ça a donné des émissions qui sont plus équilibrées, dans lesquelles Martin Aurel a réussi à apporter quelque chose de lui-même, qui se sent nettement, quand on regarde la première et les deux et troisième émissions, si je ne me trompe pas, qu'il a fait avec lui, on sent une évolution. Mais ça se voit y compris à travers le choix des thèmes qu'il va choisir pour ses ouvrages, qui sont certes des ouvrages parfaitement savants, mais qui portent sur des questions qui suscitent naturellement l'intérêt du public, voire son interrogation. Bon, évidemment, les chrétiens contre la croisade. Ah tiens, il y avait des chrétiens qui étaient contre la croisade. La légende du roi Arthur, hein. L'épée au Moyen-Âge, hein, Excalibur, Durandal joyeuse, vous voyez. Et même Aliénor d'Aquitaine, qui est un des sujets qui suscite le plus naturellement en France l'intérêt du public. Donc, il amène, je dirais pas il fait descendre, parce que ça voudrait dire encore que c'est condescendant, mais il amène au niveau du public, hein, des connaissances d'universitaires sur des sujets qui sont ceux du public beaucoup moins que directement les siens.
Oui, et petite anecdote très personnelle, il a fasciné nos enfants lorsque il a expliqué qu'il avait servi de conseiller à Alexandre Astier pour une série alors mythique pour nous, Kaamelott, qui sous l'angle de l'humour mêle à la fois l'histoire médiévale, la fin de l'Empire et bien sûr la légende arthurienne. Alors là aussi en termes d'humour et en termes alors d'inspirer une sorte de troubadour moderne, c'est assez étonnant.
Vous savez, il y a deux choses à dire là aussi à ce propos, très rapidement. C'est qu'en fait, il allait travailler avec une actrice célèbre, française très célèbre, sur un projet d'Aliénor d'Aquitaine. Bien, bon, bah, ça ne s'est pas fait. Et il a aussi intéressé le public musulman, parce qu'il est le seul chercheur chrétien d'ampleur internationale et parfaitement connu comme chrétien, qui a été invité à la Gamiat al-Azhar, suite à la publication de son ouvrage, qui a sidéré y compris le monde musulman, c'est les chrétiens contre la croisade. Donc il a su trouver des angles qui intéressaient le public, et de fait, il a trouvé le public. Puisque l'actrice dont nous parlons, c'était Sophie Marceau, donc vous voyez, Sophie Marceau, la Gamiat al-Azhar, Kaamelott, Stéphane Bern.
J'allais dire, il n'y a que Martin pour réunir un casting pareil autour de sa personne.
Oui,
effectivement, donc c'est une œuvre très riche et il s'adresse à des publics extrêmement différent et il a su rendre, on peut dire, le goût du Moyen-Âge aux gens, au-delà des clichés, des idées toutes faites. Rien ne n'énervait plus que quand il entendait des remarques négatives sur le Moyen-Âge, quand les gens disent c'est moyenâgeux, ça retourne au Moyen-Âge.
Alors ça ne l'énervait pas, je suis désolée de le dire, parce que nous sommes parfois énervés.
Lui, on s'énerve facilement. Oui.
Lui était toujours d'une gentillesse.
Il était déçu.
D'où un de ses ouvrages, moi qui m'avait beaucoup frappé, c'est 10 idées reçues sur le Moyen-Âge, qui est l'un de ses grands succès d'édition, nous avait-il dit, où il passe les marronniers sur les femmes n'ont pas d'âme, le Moyen-Âge est violent et ignorant, et il démonte ça alors avec sa gentillesse habituelle, mais avec une fermeté sur les faits et sur leur interprétation, tout historique.
Oui, il a fait passer un cran d'ailleurs, parce que de ce point de vue-là, là aussi, il creuse un sillon qui a été ouvert, tout le monde le sait, par Régine Pernoud. Oui. Voilà. Mais il monte d'un cran l'exigence académique dans cet ouvrage. C'est certes un ouvrage grand public, de nouveau.